On va prendre un texte dans l'évangile de Luc ce matin et on va lire Luc 19, versets 1 à 10. C'est l'histoire de Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, c'est ici l'histoire de Zachée, chef des publicains. Alors, il n'y a pas grand-chose sur Zachée, puisqu'après, on ne parle pas de lui ailleurs dans les Écritures. Mais rien qu'en 10 versets, finalement, on apprend quand même pas mal de choses sur cette personne. D'abord, le fait qu'il était un chef des publicains. Ça nous laisse un peu entrevoir ce qu'il était, ce qu'il vivait et même ce qu'il pouvait ressentir avec cette fonction. Donc, les publicains, c'était ceux qui étaient chargés de récolter les impôts pour le compte des Romains. Donc, ce n'était pas une position qui était très facile, très aimée. Souvent, ils étaient haïs, rejetés, on les méprisait. Et puis, quand même, il y avait beaucoup d'argent qui passait par leur intermédiaire. Donc, il y avait beaucoup de détournements de fonds. Hein. Hop, on s'en mettait un paquet dans la poche. Et Zachée, lui, c'était le chef des publicains. Alors déjà, les publicains, ils servaient. Mais Zachée était encore au-dessus. Et lui, il devait mettre la pression donc, sur ceux qui étaient en dessous pour leur dire « Allez, plus, 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 plus !» Alors. Voilà. Et il encaissait toujours. Et en plus, si jamais il ne donnait pas la somme, parce que pour chaque territoire, il y avait une somme qui était imposée par les Romains. Donc, s'il n'apportait pas la somme demandée, alors, eh bien, on prenait à Zachée et puis à tous les publicains. Alors, eh bien, du coup, ça les motivait. Et puis, ils augmentaient la facture à chaque fois. Et donc, Zachée, juif, était certainement le plus détesté de tous parmi tous ces publicains. Lui qui était comme eux, mais un traître qui travaillait pour la solde des Romains. Et quoique Zachée était dans l'opulence, la grande opulence, certainement il ne devait pas être très heureux. Il ne devait pas être très heureux parce qu'il était détesté de tout le monde, en fait. Hein. Donc c'est difficile. Hein. Détesté aussi parce que il était sans arrêt en train de dépouiller des gens qui n'avaient pas grand-chose. C'est quand même pas une position qui doit rendre heureux, j'imagine. Mais Zachée a entendu parler de Jésus. Il a appris ce que Jésus faisait. Il a entendu parler de toutes ses œuvres, de cette réputation que Jésus avait en tant que l'envoyé de Dieu. Alors, eh bien, du coup, il avait envie de le connaître. Et finalement, c'est un petit peu comme aujourd'hui. On peut dire que tout le monde a entendu parler de Jésus. Alors, peut-être oui. Là, on va dans des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, on a eu des nouvelles d'André Touche. C'est formidable. Il est dans une tribu, il s'est installé, ils ont fait leur maison. Et eux, ils veulent entendre parler de Jésus parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc, on peut trouver encore quelques peuples par-ci, par-là. Mais sinon, dans l'ensemble, et particulièrement en France, on a tous entendu parler de Jésus. Donc, on est tous un petit peu comme Zachée. On connaît la réputation du Fils de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Mais Zachée, lui, il veut savoir. C'est un homme un peu hors du commun, en sorte qu'il veut voir qui était Jésus. Il veut aller vraiment au plus près. Il veut le connaître. Et c'est une chose que de savoir que Jésus a existé, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Et c'en est une autre que de dire, mais je veux m'approcher de lui, je veux le connaître d'une manière qui est personnelle. Et Zachée était vraiment préoccupé de le connaître. Aujourd'hui, tous nos contemporains savent qui est Jésus, mais qui vraiment cherche à connaître Jésus? En fait, il n'y a pas grand monde. les rayons de Bible dans les librairies, ils ne sont pas dévalisés, hein, il y en a en quantité. Ésaü, chez lui, il est différent. Alors, il va chercher d'abord à le chercher du regard, hein, dans un premier temps, mais très vite, il s'est aperçu que c'était difficile de voir Jésus parce qu'il était petit. Il était comme moi, même il y a des gens qui sont parfois plus petits, on peut l'imaginer même plus petit encore. Hein. Et les foules, eux, ils étaient tous un peu plus grands que lui, alors bien, il y avait un obstacle, il n'arrivait pas à voir Jésus, il était à l'arrière, hein. Peut-être qu'il recevait des coups de coude, hein, dans la foule, hein, on se disait, oh, tiens, bam, un grand coup, celui-là, il mérite. Et il y avait de la résistance, il y avait un obstacle devant lui, naturel, par sa taille, et un frein qui l'empêchait. Il y a toujours des obstacles quand on veut chercher à connaître Jésus-Christ. Ici, pour Zachée, il y avait la limite humaine, il y avait la foule qui était devant lui. Et il y a plein d'hommes et de femmes qui ont des obstacles aussi pour quand ils veulent faire une démarche vers Jésus. Et avec un tout petit peu de résistance, ils abandonnent. Ils laissent tomber. Alors que pour connaître le Seigneur, il faut réussir à surmonter les obstacles. Par exemple, certains vont commencer à lire la Bible, ils vont feuilleter par-ci, par-là, au hasard, ils vont lire quelques pages, puis oh, c'est trop compliqué, paf, je referme la Bible, je la range, et puis c'est terminé, je ne vais plus l'ouvrir. Et on peut comprendre, c'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles dans la Bible, mais il n'y a pas que des choses difficiles. Il y a aussi plein de textes qui sont pour tout le monde, qui sont très abordables et qui nous parlent. Dieu veut nous parler au travers des Écritures, mais il faut surmonter l'obstacle, avancer, aller un petit peu plus loin. D'autres vont se poser la question, peut-être de venir dans une église, d'écouter la parole de Dieu, essayer de connaître Dieu, et puis, oh ben non, c'est trop loin, ou bien ça ne me convient pas, les horaires ne me conviennent pas. Et c'est certain que ouvrir la Bible dans une église, c'est précieux, parce que on va décortiquer le texte et on va faire de grands pas, on va comprendre, parce qu'on va avancer à petits pas dans la parole de Dieu, mais il faut être motivé pour venir. Il faut se lever et il faut y aller. Hein. Il faut surmonter aussi parfois cette résistance naturelle. D'autres parfois, il suffit qu'ils aient un petit prétexte, une petite chose, et puis ils ne vont pas aller plus loin dans leur recherche de Dieu. Par exemple, il suffit qu'ils voient un chrétien qui s'est mal comporté, et puis on dit, alors c'est même pas la peine. Hein. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu, hein, si quelqu'un s'est mal comporté, et chacun sera responsable après pour lui-même, s'il ne veut pas aller plus loin et dire, mais je veux le connaître. Oui, peut-être, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais ça ne m'empêche pas de rechercher Dieu. D'autres vont faire des démarches et puis après ils vont être préoccupés, les soucis de la vie, les problèmes, plein d'autres choses. Et puis on renonce à chercher le Seigneur. Et c'est quelque chose de très humain, je sais pas pour vous, pour moi en tout cas, de commencer quelque chose et puis de pas l'achever, d'aller jusqu'au bout. On commence par exemple un plan de lecture et puis au bout d'un moment, hop, on abandonne le plan de lecture. Et on ne va pas jusqu'au bout. Ou bien on commence à prier, et puis on se relâche au bout d'une semaine, un mois, et on ne prie plus. On se dit, il faudrait que. Et puis, on ne fait jamais. Mais pour avancer dans la vie, il faut prendre des résolutions, et puis il faut le faire. Et même, il faut aller encore plus loin. Il y a un verset qui m'a toujours touché dans les Écritures, c'est Ésaïe 32, et verset 8, qui dit « Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. » C'est un beau verset, ça. Hein? « Celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. » Et celui qui est noble, ce n'est pas simplement celui qui forme des nobles desseins. Il y a plein de gens, ils sont assis dans leur fauteuil, ils refont le monde. Et ils ont plein de desseins, mais ils ne font jamais rien. Non, c'est celui qui forme et puis il dit « je vais le faire ». Et puis, il persévère pour le faire. Et il le fait. Ça, c'est lui qui est noble. Et c'est un peu ce qu'on voit chez ce Zachée. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Et Zachée est vraiment motivé. Alors, il va persévérer. Regardez verset 4, Luc 19, 4. Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et dans ce verset, on voit la détermination de Zachée. J'imagine pas Zachée comme un grand sportif. Il devait plutôt faire la fête et peut-être avoir un petit peu d'embonpoint. Mais là, il court pour devancer la foule, devancer Jésus. Il veut vraiment savoir qui est Jésus. Et il faut une motivation vraiment pour rencontrer Jésus-Christ. Jésus a lui-même dit, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors ça peut avoir plusieurs significations, mais l'une, c'est qu'il peut y avoir des obstacles sur le chemin et ce sont ceux qui se font violence et qui vont au-delà, qui finalement, eh bien, s'emparent du royaume et peuvent accéder au royaume. Donc, il y a une détermination, une volonté pour y parvenir. Et c'est touchant de voir dans les Écritures des personnes qui étaient vraiment déterminées. Et il y a une histoire qui m'a touché il n'y a pas très longtemps. C'était l'histoire du paralytique. Vous savez, avec ces quatre hommes. Et je repensais à ça et je me disais, mais c'est quand même incroyable cette histoire. Ces quatre hommes, donc, ils veulent amener ce paralytique à Jésus. La maison est entouré d'une foule, impossible d'accéder à Jésus, mais ils aiment tellement leur ami, ils se disent, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour toi. Ils montent sur le toit, et là, ils arrachent le toit, ils grattent, je ne sais pas, la terre et tout ce qu'il y a, et je trouve ça incroyable. Parce qu'ils sont passés au-dessus de tout ce qui aurait pu les arrêter dans leur pensée, mais ce n'est pas notre maison quand même, on ne va pas faire ça, ou non, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils vont dire? Peut-être Jésus va nous le reprocher, ou non, ils sont passés au-dessus de tout parce qu'ils avaient tellement envie que ce paralytique, cet ami, il puisse être guéri, puisse être sauvé. Et Jésus a honoré ça. Il a dit, mais j'ai jamais vu une foi comme ça. C'est une foi vraiment, ils avaient une grande foi. Et Dieu ne veut pas jouer à cache-cache avec nous. Il ne veut pas jouer à cache-cache avec nous et ne pas se laisser trouver. Mais il faut quand même avoir un peu de persévérance, un peu de volonté. Pour le chercher. Zachée court et il monte dans un sycomore, un peu comme un gamin qui va monter dans un arbre. Et là aussi, je me dis, mais peut-être, bon, c'était le chef des publicains. Et là, le voilà grimpé dans un arbre, là, perché sur une branche pour essayer de voir Jésus, chercher à connaître Jésus. On a l'impression qu'il en oublie presque sa position de chef des publicains. Et qu'importe ce qu'on va penser de lui, le petit homme sur le sycomore, il y va. Et c'est vrai que quand on vient au Seigneur, il y a aussi, on surmonte une opprobre. On surmonte la honte hein, et on dit, bon, qu'importe ce que les gens vont penser, hein, j'y vais. Parfois on se moque de nous, on nous juge. Comment ça, tu vas dans une église, tu lis la Bible, Jésus, il y a une opprobre sur le nom de Jésus, vraiment, hein, une honte, on se marre bien, même triste, hein, le nom de Jésus est même une insulte, aux États-Unis c'est une insulte, hein, simplement le prénom de Jésus, vous dites prénom de Jésus comme ça dans la conversation, c'est un gros mot, c'est terrible, hein. Donc, et dire non, moi j'aime Jésus, bah, c'est une opprobre. Et c'est là qu'on voit la détermination d'une personne qui cherche à connaître qui est Jésus. Zachée est passé au-dessus de la peur du qu'en dira-t-on. Je m'en fiche. Il voulait vraiment le connaître. Et ça, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu attend quand même de nous. Qu'on surmonte les obstacles qui sont parfois intérieurs et qui sont parfois extérieurs. Et qu'on dise, eh bien, j'y vais. Je veux le connaître. On peut dire que Dieu a fait le premier pas. Puisqu'il est descendu vers nous. Il a versé son sang, il s'est offert en sacrifice, il est venu s'approcher au plus près des hommes. On l'a vu dans les versets que François nous a lus, hein. Il s'est incarné. Il a fait le premier pas et il attend aussi que nous, on fasse un pas vers lui. J'aimerais qu'on prenne Acte 17 et on va lire les versets 24 à 28. Acte 17, les versets 24 à 28. Il est dit... « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et celui qui ne veut pas vraiment de Dieu, ben, il ne va pas le rencontrer. Parce qu'il y a quand même une règle ici, c'est de chercher le Seigneur. Il a voulu qu'il s'efforce de le chercher en tâtonnant. Et parfois, il faut passer au-dessus des petits obstacles, des petites résistances, et vraiment eh bien, chercher à le connaître. Oser courir, monter dans le sycomore, et puis regarder. Dans le sycomore, tout le monde vous voit. Hein? Et tout le monde voit ce que vous faites là, en fait. Et c'est ça, hein, quand on prend position pour Jésus, d'un seul coup, tout le monde vous regarde. Mais non, j'accepte. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je veux connaître Jésus. Je veux pas avoir honte de Jésus-Christ, de mon Créateur. C'est au mépris des autres, parfois de la famille, parfois de nos amis, de notre conjoint. Voilà, hein. Les autres nous regardent. Alors, qu'est-ce que tu fais demain matin? On va faire un tennis? Ben non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à l'église. Ah, à l'église. Ça semble être démodé, ça, à l'église, aujourd'hui, hein. Surtout pour beaucoup de monde, pour les jeunes. Et il faut qu'on s'efforce de le trouver. Quand vous cherchez quelque chose chez vous, ben vous retournez tout. Hein. Si c'est vraiment important, un tiroir, ça dépend s'il y a de l'ordre ou du désordre. Hein. Quoique, il y en a qui se retrouvent bien dans le désordre. Hein. Mais si vous cherchez vraiment. Et vous retournez tout et vous voulez vraiment trouver la chose le plus vite possible. Eh bien, celui qui cherche Jésus de cette manière-là, il ne met pas longtemps à le découvrir. C'est ça qui est important, c'est ça qui est merveilleux. Parce que le Seigneur n'est pas loin, il est juste à côté et il se laisse trouver. Il veut qu'on le trouve. Donc, si on cherche un peu, on finit par le voir de nos propres yeux, avec les yeux du cœur. Regardez verset 5. Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée était là sur son arbre et il observe Jésus qui est en train de s'approcher. Et lorsque Jésus arrive à son niveau, Jésus aurait pu passer, pas faire attention. Mais Jésus le voit. Il savait bien ce qui se passait dans le cœur de Zachée. Alors qu'il était en train de marcher avec la foule, déjà Jésus savait que Zachée, il était en train de courir devant. Déjà, Jésus savait qu'il était en train de monter dans l'arbre. Et quand il est arrivé, il s'est tourné vers Zachée et il lui a dit, « Allez, il faut que je vienne dans ta maison. » Parce qu'il a vu le cœur de Zachée. Et ça suffisait. Parce que finalement, ce n'est pas Zachée qui cherchait Jésus, c'est Jésus qui cherchait Zachée. Hein? Et c'est ça, le Seigneur nous cherche. Il veut nous sauver. Et la conclusion de Jésus, de notre passage, le dit, puisqu'il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, c'est Jésus qui est venu chercher les hommes qui sont perdus. Néanmoins, Dieu cherche aussi ceux qui le cherchent. Il scrute. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me cherche? Lorsqu'il a vu Zachée, il s'est arrêté, il lui a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, hein, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et si Dieu cherche qui le cherche, c'est aussi qu'il ne force pas la personne, il ne force pas le cœur de la personne. Durant son séjour sur terre, je ne pense pas qu'il forçait les portes. Hein. Au contraire, il invitait plutôt à venir vers lui, c'était différent. Il cherchait des cœurs qui pouvaient l'accueillir. Et ici, il vient d'en trouver un. Et s'il voulait demeurer dans sa maison, c'est qu'il savait que Zachée avait un cœur qui était grand, ouvert comme ça, qui disait « Mais viens chez moi, s'il te plaît. » Hein? Alors, il lui a tendu la perche et Il a été invité, bien sûr, chez lui. Et même, il est allé en lui. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte sous-entendue de son cœur, on peut le voir comme ça, eh bien, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et là, on entre dans une communion avec le Fils de Dieu, une communion qui est proche, qui est intime. Quel est le cœur qui le cherche? Quel est le cœur qui est prêt à dire « Oui, je veux que tu entres en moi. » C'est ce qu'Éric a fait. C'était beau de voir ce baptême. Hein. Merci Seigneur, un cœur de plus qui t'a dit oui et qui t'a laissé entrer. Zachée, lui, il était prêt. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et on voit vraiment son cœur et sa maison grand, ouvert pour la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit ailleurs, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc encore une fois, Dieu ne joue pas à cache-cache, hein, mais il veut qu'on le cherche. Et si on le cherche, alors eh bien, il se laisse trouver vraiment volontairement. Tout à l'heure, eh bien, sur le mur, le psaume 14, verset 2 était affiché. « L'Éternel regarde du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. » Donc c'est vraiment son désir. Il veut qu'on le cherche. Et même pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est pareil. Hein? Dieu veut sans cesse, notre Père veut sans cesse qu'on le cherche. Il pourrait nous donner tout comme ça, dérouler des tapis rouges devant nous, mais il réclame, enfin il nous demande de demander. Compris en fait. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de la grâce, donne-moi de la puissance, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'humilité, secours-moi ici, viens-moi en aide ici. Il sait, le Père sait de quoi nous avons besoin, mais il veut qu'on lui demande. Et alors il se plaît à nous donner, le chercher. Il est dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui le cherchent. Il est dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc vraiment, cherchez Dieu, vous allez le trouver dans votre vie. Vous allez le voir, il n'est pas loin. Et c'est rassurant de voir aussi que Jésus n'a pas laissé Zachée le chercher pendant toute la journée. Il aurait pu finalement faire comme s'il n'était pas là, puis peut-être Zachée aurait descendu de son arbre, il aurait couru tout en sueur, prochain arbre, essayer de le regarder encore. Et il n'a pas fait tourner en bourrique comme ça. Hein. Non, il a vu qu'il cherchait et le Seigneur s'est tourné vers lui tout de suite. Et Dieu ne tardera pas non plus à notre égard, parce qu'il n'est pas loin de nous. Il n'y a pas besoin de faire un long pèlerinage, il n'y a pas besoin de faire toute une, voilà, plein de choses, aller dans des lieux en particulier. On a vu que l'Éternel n'habite pas dans une maison même faite de main d'homme. Donc Dieu est proche, hein, il est là, il veut se laisser trouver par nous. Alors Jésus entre dans la maison de Zachée, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et on voit l'homme qui est prompt à juger ici, tous murmuraient. Forcément, Jésus qui entre chez le chef des publicains, qui s'assoit à table. En fait, s'asseoir à table, c'est communier, hein, qui communie là avec le pire des Juifs. Non, Seigneur, mais pas lui. Non, pas lui. Non, Jésus le fait. Jésus n'a pas peur du qu'en dira-t-on, lui. Hein, il est au-dessus de ça. Dieu lit dans les cœurs et Jésus a lu dans le cœur de Zachée. Et il le connaît. Il connaît ses sentiments, il connaît ses découragements, il connaît... Peut-être que Zachée était en dépression, je ne sais pas, hein, dans cette position-là, ou peut-être accablé aussi par son péché, parce qu'il sait bien. Et là, une parole étonnante de la part de Zachée. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et là, on voit Zachée qui est en train de se repentir, en fait. Il se repent de sa cupidité, parce qu'il... Il sait quel est son problème. Il n'a pas besoin qu'on le souligne. Hein. Il sait qui il est. Et s'il a gravi des échelons pour devenir le chef des publicains, ce n'est pas parce que ben, c'était une place qui était plus belle ou honorable. Non, c'est qu'il ben, était cupide hein, et il en voulait toujours plus. Hein. Peut-être qu'il était dur. Hein. J'imagine qu'il fallait être assez dur pour être dans cette position-là. Et Zachée, là, se repent et il le prouve par des actes. Il est prêt à donner la moitié de tous ses biens. Même il donne. Et il se repent de tout ce qu'il a extorqué, tout ce qu'il a volé. Il est prêt même à rendre quatre fois la somme qu'il a volée. Et c'est précisément dans la loi, quelque chose qui a été dit dans l'Exode, chapitre 22. Et c'est touchant, là. Lui qui, jusqu'à présent, ben, la parole de Dieu, il la mettait de côté. Là, il se dit, ben, je vais mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a pu produire une telle réaction ? Simplement, il a rencontré Jésus. Il s'est approché de Jésus. Jésus et sa lumière là, irradiée. Il a vu qui il était. Il a vu qui était Jésus. Il a cru. Il s'est repenti. Et il a voulu réparer. Et là, vous avez une vraie conversion finalement. Je crois, je me repens et je veux réparer les torts que j'ai faits, ce que je n'ai pas fait de bien. Et Dieu est aussi prêt à venir habiter chez nous, dans notre cœur. Si nous, on est prêt aussi à faire le ménage des choses qui déplaisent à Dieu. Il y a des choses qui déplaisent, faut dire, ben non, je ne veux plus ça. Je suis prêt à me réconcilier avec quelqu'un, peut-être. Je sais que quand je me suis converti, je suis allé voir des amis et je leur ai demandé pardon. Ils m'ont regardé avec des yeux comme ça parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi je leur demandais pardon. Mais moi, je le savais. Moi, je savais vraiment pourquoi je leur demandais pardon. Et je pense que j'avais besoin de voilà, me sentir en paix avec Dieu, parce que j'avais fait du tort. Et Dieu est prêt à venir faire sa demeure dans notre cœur si nous, on est prêt à se repentir de nos péchés et à les reconnaître. Zachée, son problème, c'était la cupidité. Mais chacun a ses propres péchés. Alors, je ne vais pas citer une longue liste de péchés, mais comme lui savait pertinemment ce qu'il faisait de pas bien, nous aussi, on sait aussi où on en est et on sait quels sont nos péchés. Et si on ne sait pas et qu'on dit « je veux quand même m'approcher de Jésus », Jésus ne tardera pas à nous le montrer. En s'approchant du Seigneur, on s'approche de la lumière. Et à ce moment-là, Dieu qui est lumière, il nous montre tel qu'on est réellement. On devient transparent et là on se dit « oh là, mince, c'est vrai que devant Dieu, je ne suis pas en train de lui plaire en faisant ça ». C'est clair. Zachée l'a fait. Il s'est repenti. Et Jésus lui a dit, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Être un fils d'Abraham, c'est être un fils d'Abraham, le croyant en fait. Abraham, dans la Bible, il est mis en relief comme étant le croyant, le père des croyants. Pourquoi ? Parce que Abraham, déjà il y a très longtemps, crut à Dieu et Dieu le lui imputa à justice. C'est-à-dire qu'Abraham a fait confiance en Dieu, il a vraiment placé sa confiance en lui et Dieu a dit « je te justifie parce que tu crois en moi ». Bien sûr, c'était en prévision de la mort de Jésus-Christ, mais c'était la foi qui permettait d'obtenir la justification et donc le pardon des péchés. Et Zachée, il était dans cette lignée d'Abraham le croyant. Il a cru aussi en Jésus-Christ et il a été justifié, pardonné. Et ça, c'est ce que Dieu veut aussi faire pour nous. On vient de voir ensemble le péché de Zachée, la cupidité. Peut-être ça ne colle pas du tout avec nous. On n'est vraiment pas cupide ou peut-être on est au contraire très généreux. Et c'est possible, hein? Peut-être même qu'on est quelqu'un de très respectable, très moral. Mais il faut retenir cette dernière parole de Jésus. Il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus n'est pas venu chercher des gens qui étaient très respectables. Des gens, voilà, tout est bien. Il n'est pas venu chercher des gens qui se sentent purs. Moi, je n'ai pas fait grand-chose comme péché, tout va bien. Je suis plutôt pur devant Dieu. Ou bien des personnes qui se disent, moi, je suis acceptable. C'est obligé. Dieu est obligé de m'accepter. Soit parce que je n'ai pas fait tant de mal que ça, soit peut-être parce que j'ai souffert. Vous savez, des fois, la souffrance, elle peut devenir une manière de se dire, mais j'ai tant souffert, c'est pas possible, Dieu doit m'accepter. Mais non, voilà, on souffre tous, hein, et la souffrance n'est pas expiatoire. Et ni les bonnes œuvres que l'on fait, ce n'est pas expiatoire. Et si on se dit, mais moi je mérite finalement, je dois avoir droit au ciel parce que ben, je n'ai pas fait grand-chose, eh bien Jésus n'est pas venu pour nous. C'est ce que dit ce texte. Jésus n'est pas venu pour nous. Un jour, devant le trône, ces personnes qui pensent être justes, elles vont arriver avec leur propre justice et elles pourront dire, mais je n'ai pas tué moi, moi je n'ai pas volé. Et à ce moment-là, eh bien Dieu pourra exposer leurs péchés. Eux vont exposer leurs peut-être bonnes œuvres et Dieu exposera leurs péchés. Et là, eh bien, Dieu sera obligé de les condamner. À moins qu'elles soient parfaites, si elles n'ont pas péché durant toute leur vie et qu'elles arrivent pures, comme du cristal, alors eh bien Dieu les acceptera. Mais s'il y a la moindre iniquité, le moindre péché, alors eh bien Dieu sera obligé de les rejeter du ciel, parce que dans le ciel, il n'y a pas de péché. Mais Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, ben c'était par exemple un Zachée comme ça, un cupide, des gens comme une femme adultère, surprise en flagrant délit d'adultère, hein, ou des gens comme cette prostituée qui était en larmes, qui a lavé les pieds de Jésus, ou bien comme ces brigands qui étaient crucifiés de chaque côté de Jésus, il n'y en a qu'un qui a voulu croire, hein, qui a voulu placer sa foi en Jésus-Christ, l'autre n'a pas voulu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Mais Jésus est aussi venu sauver un Nicodème qui voulait mettre en pratique la Bible, mais qui avait bien conscience qu'il n'était pas parfait, il n'était pas pur complètement devant Dieu, et qui a aussi compris qu'il était un pécheur perdu. Il est venu sauver un Corneille, qui était un homme pieux, la Bible dit, un homme pieux, un homme qui priait. Dieu s'est souvenu de ses prières, mais un Corneille qui avait aussi conscience qu'il était perdu, qu'il n'était pas parfait devant Dieu. Et ces hommes, il y avait des hommes complètement immoraux, et puis d'autres qui avaient une bonne morale, une bonne pratique même de la piété, mais ils savaient qu'ils étaient perdus devant Dieu. Jésus donc est venu aussi pour eux, parce qu'ils ont reconnu être perdus. Est-ce que vous êtes perdus ce matin ? Est-ce que vous pensez que vous êtes perdu, un pécheur, que vous avez besoin de Dieu ? Alors si oui, Dieu est venu pour vous, il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ est mort pour vos péchés, afin que vous puissiez être sauvés. C'est pour cela qu'il est venu. Oswald Sanders, vous savez, celui qui a écrit « Tout pour qu'il règne », beau livre de méditation, il a rapporté une histoire intéressante. Donc c'est l'histoire de Paul Morphy. Paul Morphy, c'est un Américain qui a été un champion des échecs. Il me semble que c'était au 19e siècle. Je n'ai pas noté la date. Donc il était champion aux échecs et il a été invité par un ami à regarder une peinture, une grande peinture précieuse apparemment, qui avait pour titre « La partie d'échecs ». Et dans la peinture, Satan était représenté en train de jouer avec un jeune homme. Et l'enjeu, c'était l'âme du jeune homme. Et donc, c'était au tour du jeune homme de bouger une pièce sur l'échiquier. Mais il était échec et mat. Et il ne pouvait plus bouger, en fait. Et en fait, le tableau, ce qu'il présente de touchant, c'est la consternation, l'accablement, le désespoir qui se lisait sur le visage de ce jeune homme, qui voit qu'il est perdu. Et il ne peut plus bouger, il est lié, perdu. Et c'est comme ça que Dieu cherche les hommes. Il dit, est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que tu as pris conscience que tu es perdu? Tu es perdu, c'est-à-dire ton péché te condamne. Ton péché t'éloigne de moi pour toujours. Tu es échec et mat. Et ce qui est touchant, c'est que Morphy, donc ce champion d'échecs, il était un expert en échecs, bien plus que l'artiste qui avait fait la peinture. Il a dit, amenez-moi un échiquier. Et il a replacé toutes les pièces. Et il a dit, je vais jouer à la place du jeune homme. Et il a sorti le jeune homme de ce mauvais pas. Hop, il n'était plus échec. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a fait ça, vraiment. Il est venu alors qu'on était perdu, complètement perdu. Il n'y avait pas d'issue. Nous sommes tous des pécheurs, et on le sait. Tous pécheurs. La Bible dit qu'on est tous coupables, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça n'existe pas sur toute la terre. On était échec et mat. Pas d'issue, mais Jésus a pris notre place et il a joué le coup qui nous libère, qui nous délivre. Ça veut dire qu'il est venu sur la terre et il a subi notre jugement. Il est mort à notre place et tous nos péchés ont été placés sur lui. En sorte que la condamnation, elle était pour lui et la justice peut nous être donnée. Il peut nous pardonner parce qu'il a joué le coup qui nous libère. Il nous sauve de nos péchés si on le croit, si on se repent. Zachée l'a cherché, Zachée l'a trouvé et Zachée a été sauvé. Est-ce qu'on cherche vraiment Jésus comme il l'a fait? Est-ce qu'on mesure qu'on a besoin de lui? Il n'y a pas d'autre issue. On va tous mourir un jour. Et donc, on a besoin vraiment de Jésus-Christ. Pour conclure, Jésus va répéter deux mots importants dans notre récit. C'est le mot, enfin deux fois le même mot, c'est le mot « aujourd'hui ». Il va dire, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et puis ensuite, il lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Cette journée-là, c'était la journée de Zachée. Merveilleuse journée pour Zachée. Et dans cette journée, Jésus est venu dans sa maison et Jésus est venu, on peut dire, dans le cœur aussi de Zachée. Il a été sauvé. Et je terminerai en disant que le salut n'est pas un processus. Vous savez, on a souvent cette image d'un processus que ça met du temps. Jésus n'a pas dit à Zachée qu'il serait sauvé s'il persévère dans ses bonnes résolutions pendant 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Non. Et c'était pour aujourd'hui, c'était pour maintenant. Le salut est entré aujourd'hui dans sa vie. Dès l'instant où on se repent, et on croit en Jésus-Christ, le salut entre dans notre cœur. Et ça y est, on est réconcilié avec Dieu, la communion commence. Il y a une vraie relation qui commence. Un cœur sincère qui va le chercher, il va le trouver, et à ce moment-là, eh bien, il va être sauvé. C'est immédiat. La Bible dit encore, aujourd'hui est le jour du salut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on est le combien aujourd'hui ? On est 30 juin, non ? 29. Aujourd'hui, 29 juin 2014, vous pouvez être sauvé, avoir la vie éternelle. Alors, on sait pas toujours la date exacte. Hein. Certaines personnes disent, c'est dans cette période-là, dans ces mois-ci que j'ai accepté Jésus-Christ, je me souviens vraiment, tout est devenu clair et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Hein. Et d'autres peuvent dire, c'était tel jour. Moi, c'était le 23 mai. Mince, la date. 23 mai, 94, je crois, 94. C'est merveilleux de pouvoir dire ça. Hein? Je me suis réconcilié, j'ai demandé pardon pour mes péchés, il est entré dans mon cœur, il m'a sauvé ce jour-là. Eh bien, ça peut être pour vous le 29 juin 2014. Si simplement vous dites, j'ai conscience que je suis pécheur, je comprends que Jésus-Christ est mort pour moi, et je le crois, je veux le croire, je me donne à lui, je te donne mon cœur, Seigneur. On va s'incliner dans la prière.